Une émission soutenue financièrement par Jean Noël, Fabien Hobart, Christine Minetto et Johan Panier. Si vous voulez nous soutenir comme eux, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com/eTeachers. Allez, bonne émission. eTeachers,
le podcast des profs numériques. Éducation
numérique.
Actu.
Outils. Expérimentation.
Productivité.
Interaction. Innovation.
Jeff.
Guillaume.
Seb.
Et Seb. Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le numéro 84 de eTeachers. Comment allez-vous, les copains? On est tous les quatre ce soir, c'est super. Salut Seb, salut Jeff.
Salut,
salut.
Bien heureux de vous retrouver tous en ce jeudi soir pour une nouvelle édition de notre podcast, après des vacances bien méritées.
Pour tout le monde.
Pas pour tout le monde, n'est-ce pas? Bah oui, mais t'as choisi d'être aux États-Unis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Très bien. Bienvenue dans cette émission. Un programme, ma foi, alléchant pour ce soir, n'est-ce pas, Jeff?
Oui, un beau programme. Hein. On est quatre, donc c'est toujours un peu plus fourni. Hein. On va commencer toujours par notre partie actu, où on va parler beaucoup d'informatique en général, de code. Trois outils ce soir, dont un, je ne sais pas ce que c'est. On découvrira tout à l'heure par Seb, Open e-learning.
Tu as bien préparé l'émission, bravo.
Voilà, carte, un peu de programmation et un peu de Plickers-like, vous verrez un petit peu. Truc astuce, je crois, Guillaume, tu vas proposer quelque chose.
Oui, un petit quelque chose.
Et une partie innovation, expérimentation, a priori sur l'école du futur. Je ne sais pas qui a mis ça en plus.
C'est moi, c'est moi.
Ok. Et on finira par bien sûr ce que l'on fait en ce moment et notre célèbre rubrique pour parler d'autres choses.
Très bien. Ça va les Seb, tout va bien pour vous?
Ça va, ça va.
La conviction.
Fatigué là. Et le Seb du Sud, il va bien?
Ça va aussi.
Bon, très bien. J'espère que vous avez profité de notre émission diffusée en différé, messieurs, dames, pendant les vacances avec notre invité, avec une émission, ma foi, fort intéressante.
C'est vrai que c'est sympa.
Jeff, on y va?
On est parti. Allez, c'est moi qui attaque, je crois. Je vais parler de deux petites actus, une actu assez rapide qui s'appelle le Castor Informatique. Je crois que j'en parle chaque année, je crois, de celui-là. C'est un concours sur le, comme son nom l'indique, sur l'informatique, sur le code en général, hein, qui est destiné du CM1 à la terminale. Ce sont en fait des concours qui durent 45 minutes. On est chaque élève est devant son ordinateur et on a 12 questions interactives qui sont sous forme de logique. On n'est pas vraiment sur du code au langage, mais plutôt de la logique. Les élèves peuvent participer en tout cas seuls ou par binôme à ce concours. Le concours se déroule en tout cas sur 4 semaines. Il attaque à partir du 11 novembre au 7 décembre. Donc, il est urgent d'inscrire sa classe. Et ensuite, ils pourront évoluer, bien sûr, hein, à différents stades, à passer à un concours qui est un peu plus costaud, qui s'appelle Algorea. Et on a même une étape, je crois, une finale, en tout cas, sur Paris, après. Donc, il suffit de s'inscrire, c'est gratuit, c'est plutôt bien fait. Moi, j'y participe à peu près chaque année. Donc vous allez sur castor-informatique.fr, tout est marqué dessus et vous pouvez en tout cas inscrire votre classe. Voilà.
Très bien, merci Jeff. D'autres choses pour l'actualité?
Bah, il n'y a que moi, je crois, hein, après qui enchaîne. Le gros morceau, c'est le programme du lycée qui est sorti très récemment. Alors, ce sont encore des programmes qui sont à consultation et qui vont peut-être évoluer, mais souvent on a quand même les grandes lignes.
Je me permets de te corriger parce que c'est quand même une différence, à mon avis, importante. Ce sont des projets de programme.
Voilà, tout à fait. Ils sont en consultation, tout à fait.
Voilà.
Mais bon, On se doute bien que ça a beaucoup évolué sur certaines choses. Je veux parler, on est sur l'informatique, donc on est sur le numérique, donc c'est un peu la nouveauté de ce programme du lycée en France. C'est anciennement d'une heure et demie pour tous les élèves en seconde, l'enseignement qui s'appelle sciences numériques et technologie. Donc une heure et demie par semaine. Pour l'instant, on ne sait pas qui va enseigner ce nouvel enseignement, puisqu'on n'a toujours pas de concours de CAPES informatique, en tout cas en France. Je sais que ça existe dans d'autres pays, mais en tout cas, ça n'existe pas, en tout cas, encore en France. Et donc, c'est un peu la question que tout le monde se pose. En tout cas, sur le contenu du programme, c'est assez alléchant, en tout cas. On va parler pas uniquement code. Donc, on pensait que les profs de maths allaient prendre cet enseignement. Et en fait, non, il y a beaucoup de choses qui diffèrent du code, hein, puisqu'on va parler d'objets connectés aussi. On va parler des données en général, protection des données, etc. On va parler donc de tout ce qui est aussi culture informatique en général. Hein. Je pense aux réseaux sociaux, par exemple, à du réseau. Voilà, en tout cas, sur les grandes, grandes lignes de ce nouveau programme. Donc, on n'a pas que... On n'a pas que vraiment du code. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est la question qu'elle on se pose un petit peu, de quel enseignant va pouvoir faire cet enseignement. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait en techno-collège, en un peu plus poussé. Hein. Voilà, donc je dis rien. Je pense que... Voilà, vous m'avez compris.
Juste une petite question, parce que moi, j'ai pas suivi ça du tout. J'ai l'impression que c'est un mix entre l'enseignement de l'informatique et apprendre en même temps à se former aux usages de l'informatique.
Aux usages, aux médias aussi. Tout à fait. C'est un mix d'un peu tout ça. C'est vraiment sur le numérique, une culture numérique, en fait. Voilà.
D'accord.
Ce qui est d'ailleurs, peut-être, je suis assez d'accord avec ta remarque, Seb, un peu problématique en fait de tout mettre dans le même finalement dans le même panier quoi puisque c'est quand même des choses différentes quoi.
Oui, mais on n'est pas sur un module choisi par les élèves, tu vois, c'est un enseignement obligatoire, donc c'est de la culture.
Oui.
Ouais. Mmh. Non.
Non, enfin, je veux dire, c'est obligatoire ou choisi. Si tu fais de l'informatique, t'apprends à voir comment ça fonctionne, l'architecture des machines aussi, le code, etc., les usages. C'est un peu plus philosophique, éducation à la citoyenneté, toutes ces choses-là, quoi.
L'informatique et le numérique, c'est justement deux choses pleinement différentes, en fait, il me semble. Mais c'est sur des projets, après, bien, évidemment.
Pas,
mais...
D'accord, ce n'est pas en destination pour faire des informaticiens au bout, hein, d'accord.
Ouais.
Voilà.
Tout à fait.
Et je rebondis sur justement avec ce nouveau programme aussi avec ce nouveau bac hein, qui va arriver au lycée où on va avoir un choix de alors j'ai perdu le nom exactement de on appelle ça des enseignements alors attends j'ai perdu le nom en première enseignement donc voilà, bon. Vous m'avez compris, enfin, il y a des modules, des systèmes de modules en fait, qu'on va choisir. Les élèves vont choisir des modules de 4 heures, 3 modules de 4 heures en première et 2 modules de 6 heures en terminale. Là aussi, il y a beaucoup d'interrogations, en tout cas dans les lycées, comment ça va se mettre en place. Mais bon, là, ce n'est pas le sujet. Et je voulais parler aussi de la partie qui s'appelle numérique et sciences informatiques. Donc là, c'est aussi un nouveau module en première et terminale. Et là, oui, là, on est plus sur de l'informatique pure et dure, hein, de l'algorithme, du code, du réseau, de l'objet connecté. Donc là, on est vraiment sur le pur et dur. Donc 4 heures en première et 6 heures en terminale.
Voilà, et toi, de techno, ça t'intéresserait de le prendre en charge, ces modules, justement
Le module, je pense, de première terminale est un peu plus poussé par rapport à nous en preuve techno, puisque ça ressemble beaucoup à l'algorithme mathématique, tu vois. Je pense que les profs de maths vont être les premiers sur ces modules-là. Moi, c'est le module, c'est en seconde que je pense qu'on est, en théorie, on pourrait en tout cas enseigner en seconde. Là-dessus.
Voilà. Mais ça te plairait ?
Oui, j'aimerais bien tenter l'expérience, oui, bien sûr. Ouais. Tout à fait. Tu m'as pas vu venir tout à l'heure, pourtant ça se sentait, non ?
Non, mais après, je veux dire, il y a des trucs qui peuvent qui peuvent paraître alléchants. Et puis, et puis des fois, tu te dis, ouais, mais bon, ça me demanderait quand même beaucoup de préparation. J'aimerais bien être formé avant de pouvoir me lancer, ce genre de choses, quoi, tu vois.
Je trouve que l'enseignement de seconde, vraiment, est de la techno plus poussée, quoi, en fait. Hein, moi, je pense. Mm-hmm. Hein, voilà. Et moi, je suis très inquiet sur cet enseignement de seconde. Voilà. Très inquiet sur qui va faire ça.
Est-ce ouais, que ça fait
être un enseignement à, tu vois, le prof qui manque, lui manque d'heures, et ben on va lui faire mettre cet enseignement là. Et derrière, ça veut dire qu'en première terminale, il y aura plus grand monde qui va peut-être prendre la suite, tu vois. C'est ce que j'ai peur dans cet enseignement là. Voilà. Peut-être que je vais me tromper, hein.
Ça fait un peu fourre-tout, un peu. Pour l'instant, c'est pas très défini, quoi. Ouais. Quel profil de poste, c'est pas très clair, quoi. Tout à fait.
Oui, on n'a pas l'enseignant pour. Voilà ce que je répétais tout à l'heure. On n'a pas de concours d'enseignant d'informatique. Je me demande qu'on attend pour en faire un, en tout cas en France, mais voilà.
Il n'y a pas de concours de prof de FLE non plus. Pas de capacité de FLE.
Ça, c'est assez fou d'ailleurs aussi, mais bon, je pense que le besoin est tel que peut-être qu'on viendra à le créer. Va savoir.
Voilà pour les actus.
Très bien. Eh bien, on va enchaîner avec les outils. Tu.
Ah, bien. Ça.
Tu fais du jingle maintenant.
T'as vu, je vais faire les jingles. Je m'ennuyais, ça. Très bien.
Allez, j'ai assez parlé, moi. Qui c'est qui attaque ?
Seb.
Dans l'ordre.
Un excellent outil. Donc, je vais essayer. J'ai écouté un petit peu les remarques. Je vais faire sans partager mon écran comme ça. Ça ne fera personne. Et donc, un outil découvert grâce à Tisman. Hein, je recommande vraiment son blog qui, pour moi, fait partie de ma principale source de découverte d'outils informatiques. Et là, c'est Open E-Learning. Pour l'instant, pour être honnête, ça ne fait pas grand-chose. Mais ça vous permet de créer des modules d'e-learning complet en SCORM pour les héberger ensuite sur une plateforme. Alors, ça ne fait pas grand-chose. Vous pouvez travailler un petit peu.
SCORM.
Comment ? Ah oui, SCORM. C'est un package de cours, d'activités de cours que vous pouvez lancer sur une plateforme. Et après, une fois que les gens cliquent, ils sont un peu comme dans un diaporama où ils vont passer de slide en slide avec des activités à l'intérieur. Et puis, il peut y avoir tout un tas de conditions pour pouvoir passer d'une slide à l'autre, si vous répondez bien à un questionnaire ou pas bien, etc. Avec des retours et tout ça. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir un cours qui est en complète autonomie, sans tuteur. Donc, vous avez tout le matériel face à vous et vous complétez ça. Nous, par exemple, dans mon organisation, c'est ce qu'on a pour une première formation à la sécurité. Et ça marche plutôt pas mal parce que pour nous, il s'agit de quand on part sur le terrain, de pouvoir avoir des bases sur la sécurité, de comment demander son hôtel, à quel étage, etc., de qui est votre référent sur place, qui contacter, quelles sont les différentes étapes. Donc, c'est vraiment des trucs où il n'y a pas sujet à discussion, quoi. D'accord? On n'est pas dans la maïotique. Il faut connaître les règles et les appliquer, point barre. Donc, ça marche bien pour ce genre de truc-là. Je pense d'ailleurs que pour des tutos de formation à des outils, ça peut fonctionner aussi. Mais bref, pour revenir à cet outil, donc il est open source, il est libre, il est gratuit en plus, il est disponible sur Windows, Mac et Linux. Et il vous permet donc de créer des slides de formation. Alors vous pouvez mettre les titres, vous pouvez ajouter du texte, vous pouvez ajouter des sous-titres, vous pouvez travailler la mise en page un peu comme sous PowerPoint, et vous pouvez ajouter des boutons pour passer de page en page. Donc en gros, sur le volet droit, vous avez toutes vos vignettes, et sur le volet gauche, vous avez toutes les options que vous pouvez intégrer à votre module. Et au centre, vous avez le produit fini. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ajouter donc des activités interactives, telles que des questions à choix multiples, des questions à menu déroulant, et puis des questions pour appareiller des éléments. Donc, c'est à peu près tout. C'est le seul manque. C'est un peu léger pour l'instant. Et puis, vous pouvez ajouter un score final sous différentes formes. Vous pouvez ajouter des médias, des vidéos, soit que vous hébergez vous-même, soit à partir d'URL.
Et elles sont hébergées où, ces vidéos, si tu les héberges toi-même?
Eh ben, elles sont dans ton module SCORM. Et après, quand c'est balancé sur ta plateforme, c'est ta plateforme qui l'héberge.
Waouh! Et gratos? Tout ça gratos en plus?
Ah bah non, t'as payé un serveur pour mettre
c'est,
ta plateforme.
C'est, ah, c'est ta plateforme. C'est toi qui héberge la vidéo, j'avais pas compris. Oui, d'accord.
Si, une plateforme Moodle, quoi. C'est ça. Hein,
oui, oui, ok.
Non, ouais. Ouais. Y a des jeux aussi, bon, qui est un pendu et puis un jeu où on perd des vies. Et vous pouvez ajouter aussi des diagrammes. Et après, il y a l'onglet prévisualisation. Donc, c'est à peu près tout ce que ça fait. Donc, beaucoup moins puissant qu'un Articulate ou que Captivate, oui, hein, de Adobe. On est d'accord. Hein.
On n'est pas au même prix.
On n'est pas au même prix. On n'est pas non plus, parce que c'est très facile à prendre en main, c'est vraiment très visuel, on met tout ça. Donc, si vous avez fait un peu de Captivate, vous avez votre timeline et tout, et s'il y a 10 éléments, ça fait la timeline, pour pouvoir explorer, c'est un vrai casse-tête. Là, ça permet de faire des choses très simples, très courtes aussi, mais bon, bah, ça peut marcher pas mal. Et puis voilà, je trouvais ça intéressant, en tout cas, j'ai suivi ensuite pour le développement.
Oui, c'est en version bêta, toujours, ils disent.
C'est une version bêta, mais c'est surtout le premier outil de ce genre en open source. Donc, je vais vraiment suivre de près et j'ai trouvé ça sympa.
Encore un grand merci. Ça mérite d'exister, ouais, c'est quand même plutôt pas mal. Vu le prix des outils e-learning, comme on le disait avant, pour des petites organisations ou des services publics, comme on peut en connaître certains, ça peut être intéressant de prendre
en main. Non, c'est à regarder, en tout cas, et à suivre, je pense. Ouais.
Et en plus, il y a des jeux, mais je ne pense pas qu'il y ait Fortnite, ce qui risque de ne pas intéresser nos chers élèves, bien évidemment, si tu leur parles de jeux. Voilà, c'était la blague du jour qui fera peut-être le titre de cette émission. Merci.
Là que tu l'as placé, ben, j'ai pas le choix maintenant.
Voilà. Bon, j'ai tellement rien à dire ce soir qu'il faut que je dise des conneries, sinon.
Non, c'est très intéressant en tout cas, ouais.
Carrément. Et ben, Seb, c'est à toi.
D'accord. Alors, pour ma part, je ne vous propose pas un outil informatique, je vous propose un objet que l'on peut programmer qui s'appelle le Microbyte. Alors, ouais, je sais. Oui, moi aussi,
c'est bête pour le coup. Si tu l'as écrit comme tu l'as écrit sur le doc, c'est bien.
Et c'est, il me semblait que ce n'était pas byte. Ouais.
Ah, bête. Okay.
Putain, il n'y a pas que moi qui ne soit pas bon en anglais. Ça fait plaisir.
Ah, bah écoute, hein, pas de souci, je reconnais. Donc, au début des vacances, j'ai été faire un atelier de formation sur ce petit bitonio. Moi, j'appelle une carte programmable. Hein, avec les enfants, c'est beaucoup plus pratique. Alors, cet atelier, c'était organisé par. Alors, ils étaient plusieurs à l'organiser. On avait Kids Code Jeunesse, on avait Class Code et le laboratoire d'innovation et numérique pour l'éducation, autrement acronymé en LIN, qui organisait donc cette formation et pour qu'on puisse, à destination des enseignants et consorts, pour prendre en main ce petit truc. Donc, à quoi ça ressemble? Ça ressemble en gros à une espèce de carte de crédit que vous allez pouvoir programmer, puisqu'en fait, c'est un mini-ordinateur, c'est beaucoup dire. Qui peut accepter du code et ce code pouvant être réalisé sous forme de bloc. Alors, on peut aussi le faire en Python, mais bon, moi, je ne connais pas trop le Python, donc on ne va peut-être pas exagérer. Voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Ben, des tas de choses, surtout que la petite carte en question, elle a un accéléromètre. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un accéléromètre, ça permet de connaître l'orientation de l'objet en question. Ça comporte deux petits boutons à l'avant. Ça possède aussi une radio, un compas, un thermomètre. Et en façade, ce qui va faire son succès au début, ce seront un petit panneau d'une vingtaine de LED, de petites LED sur lesquelles on peut faire afficher des tas de trucs préprogrammés. Donc une formation qui était de très bonne facture. Franchement, on s'est bien amusé pendant ça a duré quoi, 4-5 heures. Ouais, 4-5 heures qui sont passées super vite, très agréable, avec vraiment un truc, une mise en action, etc. Bon, on a fait un petit peu de programmation déconnectée, sans outils, et après on est passé sur la carte. La prise en main, elle est franchement simple. Les possibilités, c'est toujours la même chose avec ce genre de petits de petites cartes, c'est, ça n'est limité que par votre imagination. Moi, je me suis éclaté hein, pendant toute la matinée.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut programmer sans avoir de matériel supplémentaire. Quoi. La carte déjà suffit. Voilà, c'est ça. Hein.
Alors, on peut faire. Voilà. Tu as besoin d'un. Alors, tu programmes sur ordinateur sur une interface qui ressemble à du Scratch, par exemple. Et tu peux en faire mais tout ce que tu veux, quoi. Soit un petit panneau d'affichage, soit un podomètre si tu veux compter les pas. Moi, après la formation, du coup, je m'en suis acheté deux supplémentaires. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut les faire communiquer les unes. Elles peuvent se mettre sur le même canal radio et donc on peut programmer, influencer l'une avec l'autre.
Ouais, des possibilités. Pour la petite histoire, c'est une carte qui a été créée pour l'éducation, hein, en plus. Hein, elle a vraiment été.
Par la BBC.
Ouais, par la BBC, tout à fait. Donc, elle est vraiment pensée pour l'éducation. Hein.
Ouais. Mais franchement, c'est très, très sympa à voir, à prendre en main. Voilà. Il y avait quand même dans le groupe des gens qui n'avaient jamais fait de Scratch, par exemple. Mm-hmm. Voilà, on y est tous arrivés à la fin, quand même.
Et... Alors, moi qui ne connais rien en programmation, en tout cas dans tous ces outils pour l'éducation, en Scratch, tu peux programmer un podomètre. J'ai pas bien compris, en fait.
Alors, en fait, si tu veux, c'est quand je dis Scratch, c'est du Scratch-like. C'est la programmation par bloc.
Par bloc, oui.
Après,
okay,
de toute façon, j'en reparlerai tout à l'heure dans l'émission, mais la programmation par bloc, là, elle est personnalisée. Tu vas avoir, quand j'appuie sur le bouton A, parce qu'il y a le bouton A, il y a le bouton B, quand l'engin est secoué, quand il est orienté vers le bas, vers le haut, à droite, à gauche, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Et donc, oui, d'accord, tu peux faire un podomètre. Tu peux dire, à chaque fois que je suis secoué, je rajoute 1 à la variable temps et il va te compter ton nombre de pas si tu le fixes à ta cheville.
Et tu peux l'afficher puisqu'il y a des LED. Voilà.
Exactement, exactement.
Ça me fait penser à Meki Meki aussi.
Je vais en parler un peu plus tard aussi.
Et puisque tu as sorti le porte-monnaie pour cette carte, c'était combien?
Alors, c'est très, très, très onéreux. Attention, hein, je parle d'un produit qui m'a coûté 20 euros pièce.
Ah ouais, donc c'est 5 fois moins cher que Meki Meki.
Oui, mais qui reste plus cher qu'un un Arduino. Voilà.
Oui, mais
Arduino, c'est combien aujourd'hui?
Plus sympathique et accessible.
Ben, Arduino officiel, c'est de l'open source, donc tu peux le trouver, le vrai fabricant en Italie, à 17-18 euros, mais tu le trouves dans un site d'AD compatible sur les sites chinois à 4-5 euros. Quoi.
Voilà. Et sur Wish, les 100 sont à 5 euros.
Mais c'est pas la même approche. Voilà.
C'est pas la même approche.
Arduino, tu vas rajouter des capteurs, quoi.
Oui, mais Arduino, là, tu rentres dans de l'électricité aussi.
Tu rentres dans le capteur. Mais le micro:bit, hein, tu peux faire la même chose aussi. Hein. J'ai vu de...
Oui. Tu peux rajouter
avec la carte micro:bit.
Alors, en fait, c'est comme tout. J'ai commencé un petit peu à fouiller micro:bit. Il y a tout un marché autour maintenant. Tu peux rajouter de quoi le faire transformer en petit char autopropulsé, puis lui rajouter des LED, et puis le brancher à une qu'on appelle ça là les trucs à pain là pour brancher les composants électroniques.
Un grippin ?
Non.
Les trucs à pain ?
Oui, purée. Allez, Jeff, aide-moi. Tu sais, ces cartes.
Les plaquettes lab ?
Les
plaquettes lab ? C'est ça ?
Non. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle bread quelque chose. Ça c'est pour brancher. Si vous avez envie de brancher des LED ou d'autres composants électroniques de façon temporaire pour essayer vos circuits, eh bien, ça s'appelle bread quelque chose.
Genre de fiche banane, quoi, c'est ça ? Non.
Alors, on parle de pain et de banane électronique. Moi, je suis perdu, les gars. Là.
Ok. Vous savez quoi, hein, je vais passer au suivant. Je vais aller chercher le nom de ce truc et puis je reviens.
Non, mais je suis d'accord avec toi. J'en avais un petit peu parlé d'un micro:bit. C'est vrai qu'en ce moment, là, le vent en poupe parce qu'elle est vraiment spécialisée pour l'éducation. Elle est vraiment facile d'accès, même si on n'y connaît rien strictement électronique. Et tu as vite passé l'aspect Python, mais moi, je trouve que c'est ça qui est super intéressant. C'est que tu peux tu peux t'en servir du CMA. Jusqu'en terminale et...
Breadboard, platine d'expérimentation.
Donc une plaquette.
Breadboard.
Je suis passé vite sur le Python parce que c'est, si tu veux, chez moi, le Python, je ne vais pas m'en servir. Et si je dis Python à des collègues, je les entends déjà courir et passer par la porte de sortie.
Oui, mais moi, j'ai parlé du programme tout à l'heure de seconde, première terminale. On est sur du Python. Ils vont faire
mais est-ce que tu le sais, généralement, quand tu as de la programmation par bloc, tu as du Python facilement accessible. Là, tu peux transformer très rapidement sur ce qui était proposé. Tu passes rapidement de la programmation par bloc en Java. Et tu as une autre platine de programmation pour avoir la version en Python.
D'accord. Ok.
Rien à voir avec le serpent. Hein.
Rien, oui, putain, j'allais la faire.
J'allais la faire. Voilà. Je suis dépité.
Non, hein, mais c'est bien dans cette équipe, tu vois, on a de littéraires, de scientifiques, c'est pas mal.
Rien à voir avec le serpent, ça me mériterait peut-être mieux le titre de l'émission.
Mmh. Ok, on fait un concours sur le titre, d'accord.
Après avoir propulsé des chats électroniques, ou des chars peut-être, j'ai peut-être pas bien compris.
C'était des chars, ouais.
Ah, il me semblait aussi qu'il y avait un truc.
Allez, c'est à moi. Le nom s'appelle QCM Cam. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une version, on va dire, open source, libre de la fameuse application qui s'appelle Pickers. Vous connaissez Pickers?
Oui.
Mais voilà. Rappelle-nous comment ça fonctionne.
Pickers, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de vote. Un outil de vote où chaque élève va avoir un petit code papier dans la main. Et à partir d'un smartphone, habituellement, on va scanner ces codes-là et on va avoir la réponse en tout cas, à la question qu'on a posée. Donc,
un petit code papier qui, suivant l'inclinaison que tu donnes, l'orientation du code, permet d'avoir 4 réponses. Parce que sinon…
On est limité à 4 réponses, A, B, C, D. Voilà. Le principe, c'est ça. Pickers, je ne sais pas si vous avez vu son évolution, en tout cas dernièrement, c'est devenu une usine à gaz. J'ai essayé de le réutiliser en formation. C'était vraiment, c'est devenu une usine à gaz. On fait que chercher, que cliquer, etc. En tout cas, là, sur le site qui s'appelle qcmcam.geduc.net, un peu compliqué le nom. Ça a été développé par un enseignant. Il va m'en vouloir parce que j'ai perdu son nom. Je crois que c'est Sébastien Cogès, voilà, un collège à Cyprien, qui a mis ça sous licence libre, Creative Commons en tout cas, tout ça. Et donc, comment ça marche? Ah merde, j'ai perdu le truc. Enfin, c'est pas grave. J'ai perdu le site. C'est pas grave. Ça marche à peu près la même façon. Au départ, il a fait ça sur… c'est une version dans le navigateur. On va directement sur l'adresse que je vous ai indiquée tout à l'heure, la qcmcam.geduc.net. Il n'y a rien à installer. On est en connecté, donc forcément. Ça marche au départ par webcam. Lui, il est parti sur la webcam du PC. On va entrer sa liste d'élèves. On va donner à chaque élève un code, de la même façon qu'on vient de parler tout à l'heure avec Pickers, c'est un code papier qu'ils vont tenir à la main et qu'ils vont orienter d'un sens à l'autre par rapport à la question, par rapport à la réponse, pardon. On va afficher la question et avec la webcam, on va scanner tout ça et ça va nous donner les réponses des élèves. Donc là, aucun changement. On peut faire la même chose avec le smartphone aussi. Moins pratique. Hein, à l'utilisation, moi, que j'ai un peu essayé. Moins pratique avec le smartphone, mais avec la webcam, ça marche très bien. Vous allez me dire que rien de nouveau à l'horizon. Non, rien de nouveau. On est vraiment sur du Pickers-like. Hein, ça marche de la même façon.
En plus, il faut une webcam, je te coupe, qui soit mobile. Du coup, tu peux pas la faire avec la webcam d'un ordinateur portable, quoi. C'est pas très pratique.
Eh ben, si ta webcam, a priori, ce que j'ai compris, capte l'ensemble de ta classe, eh ben, il n'y a même pas besoin de la déplacer.
T'as pas besoin de la déplacer, d'accord. J'avais pas compris ça, ouais, ok.
Donc, il y a plusieurs codes, en plus, même avec des webcams de mauvaise qualité, alors que j'ai pas essayé, peuvent marcher. Les codes sont un peu plus gros et moins définis. Voilà, je trouve que c'est en tout cas une belle initiative, en tout cas, d'avoir développé ce petit logiciel. Alors, il y a une version, a priori, qu'on peut installer. Alors, j'ai pas essayé. Donc, ça veut dire qu'on se passerait complètement de connexion. Voilà, on pourrait le faire en local complètement. Donc, ça, ce serait à tester et ce serait, je pense, assez intéressant là-dessus. Voilà, je disais, ça marche aussi sur tablette et sur smartphone.
En classe, ce genre d'outil-là?
Comment?
Vous l'avez déjà testé, ce genre d'outil en classe?
Moi, j'ai déjà utilisé Pickers très souvent en classe. En formation. Celui-là, je ne l'ai pas encore testé en live. Non. J'ai juste testé à la maison tranquillement. Voilà.
J'imagine que c'est mieux quand même si tu as une utilisation régulière, parce que si tu fais juste pour une question, que tu sors ton téléphone pour regarder tous leurs cartes, tu as un peu l'air. Non.
Oui, oui, oui. Ouais. Les élèves, je sais qu'on a un collègue de maths qui l'utilise beaucoup nous, chez nous. Il les a fait. Ils ont les codes collés derrière leur cahier, tu vois, et ils ont directement.
Ouais, c'est un truc à ritualiser un peu avec.
Moi, je m'en sers très souvent. Ouais, voilà, un rituel pour pouvoir faire de la vérification de connaissances. Par contre, ça va jamais au-delà de ça. Sur du vocabulaire, des fêtes, des choses très très simples. Début d'heure ou fin d'heure, crac, ils ont l'habitude. Ils voient les questions, ils lèvent leur carte et quand c'est en place et que ça marche et qu'ils ont l'habitude, ça va très vite et c'est très efficace. Par contre, les premières séances, c'est la galère parce que bon, ils sont excités forcément. Enfin voilà, toujours un peu comme tous les outils.
Ouais, ça me donne bien.
Et t'avais trouvé aussi que Plickers avait évolué bizarrement là, non ?
Ah ouais, moi je l'ai fait en formation pareil il y a pas très longtemps là sur des premières années.
J'étais perdu. Hein.
Et en fait, je me suis fait avoir parce que j'avais pas vérifié depuis un certain temps et je suis arrivé sur l'interface. C'était compliqué, ouais.
Je suis d'accord avec toi. Il fallait cliquer partout à droite à gauche.
C'était un peu perdu. Ouais.
L'évolution est un peu difficile.
Donc ça s'appelle, voilà. Rappelle-nous le nom.
QCM CAM. Alors, je ne sais pas si c'est trouvable facilement, mais je mettrai bien l'adresse.
Si. En fait, alors, j'ai trouvé une autre adresse sur laquelle tu as accès à QCM CAM. C'est matix avec un i.org/QCM_CAM_stable.
Oui, parce qu'il développe beaucoup de choses, ce monsieur Sébastien Cogez.
Tout à fait, du collège Olibo de Saint-Cyprien.
Ouais, bah, ça vous changera des sites sur lesquels vous avez d'habitude qui se terminent en CAM. Hein, très bien. Et là, tout le monde réagit avec un petit sourire, le monde comprend de quoi je parle, et c'est encore pire, très bien. Je comprends mon âge, Jeff, fais pas ta tête d'un génie.
Après l'attaque sournoise, allez, suite.
Je sais très bien que je coupe rien, hein.
J'espère bien, je suis content de mes blagues. Allez, bah écoutez, merci pour ces outils.
Allez, vas-y.
On va enchaîner, alors en fait, c'est un petit truc et astuce, mais qui pourrait... C'est un petit truc astuce qui pourrait tout à fait avoir sa place dans les outils, en fait. Mais bon, comme c'est du très ponctuel, c'est un autre site qui permet en fait de filtrer les vidéos YouTube. Moi, j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos YouTube, mais je suis toujours embêté puisque quand je leur donne des liens, la tentation est grande de cliquer sur les liens connexes, sur les pubs, sur les vidéos qu'on voit à côté. Là, il suffit de rentrer l'adresse de la vidéo que vous avez préparée à la maison, donc que vous souhaitez donner à vos élèves. Vous la mettez sur ce site que je vais présenter après. Il vous génère un lien à donner aux élèves et vous avez donc une vidéo toute propre sur une page avec rien qui parasite, un lecteur très pratique. Bon, je ne vais pas partager mon écran, comme on l'a dit, donc vous irez voir. Uniquement ce qui est important de savoir sur la vidéo, savoir ce qu'on trouve en général en dessous des vidéos YouTube, hein, les commentaires, pas les commentaires des internautes, pardon, hein, justement, hein, les commentaires de l'auteur de la vidéo, celui qui la met en ligne. Il est possible de faire des signets, pareil, hein, pour des débuts et des fins de vidéos. Et voilà, c'est très simple. Il en existe de nombreux des outils comme ça. J'en avais présenté un autre il y a quelques temps qui était qui en fait s'est avéré être moins pratique, je trouve. Donc lui, il s'appelle justement SafeShare, ce qui veut dire en anglais un partage sécurisé, un partage en toute sécurité.
J'utilise un autre qui s'appelle ViewPure aussi.
Voilà, lui je trouvais sympa, je le trouve graphiquement agréable en fait, je trouve que quand on va sur la page, c'est bien foutu. Voilà, donc tout simplement un petit quelque chose, voilà.
Ok, mais je crois que c'est toi qui enchaîne, hein, donc...
Eh bien je vais enchaîner pour la rubrique innovation et expérimentation. Alors c'est pas vraiment de l'expérimentation, peut-être une innovation, je cherchais... récemment, quelques articles, quelques nouveautés, puisque me dire, tiens, qu'est-ce qu'on fait de nouveau aujourd'hui avec le numérique ? Parce que finalement, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on est à fond sur les tablettes, qu'on développe beaucoup de choses. Et en tapant juste, en fait, quelques mots-clés du style innovation numérique ou je sais plus exactement quoi, je suis tombé sur cet article, je ne sais plus, des Échos, je crois, peu importe la couleur du journal, on va avancer là-dessus. En tout cas, qui relate... une expérimentation dans une mairie des Yvelines, 78, c'est ça, ouais, 50 ans en Yvelines, et qui nous relate que la plupart des écoles primaires sont équipées de nombreuses tablettes, de nombreux TNI, de tout un tas de matériel. L'histoire est en fait assez simple, c'est que tout simplement le maire de la ville en question, 50 ans en Yvelines, qui est également le président de la communauté de communes, est un ancien de chez IBM et qu'il croit énormément en, 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 le, en l'éducation via les outils numériques, puisqu'il nous raconte même qu'il avait arrêté l'école assez tôt pour travailler chez IBM et qu'il a appris beaucoup plus vite chez eux en programmant, en codant, et que ça a développé tout un tas de compétences pour lui qui lui ont permis de redémarrer ses études pour ensuite aller jusqu'à un doctorat. Donc, il y a ce côté un peu, histoire singulière, un peu, voilà, j'ai arrêté l'école, j'ai découvert le numérique, ça a changé ma vie et je veux transmettre à tout le monde. En tout cas, on s'aperçoit que cette initiative, elle est finalement, encore une fois, avec un seul homme, quoi, en tout cas, impulsé vraiment par un homme, ici le maire, qui croit là-dedans. Bon, je ne vais pas vous lire l'article parce que vous pourrez le retrouver. Ce qui est intéressant, c'est qu'il explique en fait tout un tas de matériels qui ont été donnés. Il y a même des robots, les gars, vous connaissez peut-être des robots Nao, Timio, Zobot.
Oui, oui, bien sûr, Nao, ça vaut une fortune.
Ah oui. Voilà, qui ont été développés et dès la maternelle, l'objectif étant d'éveiller les élèves au codage de façon précoce et favoriser l'apprentissage du travail d'équipe, nous dit l'article. Autre chose, dans ces écoles expérimentales, c'est presque plus ça qui m'a intéressé, parce que je trouve ça vraiment nouveau, parce que bon, acheter encore des tablettes et des TNI, on connaît. C'est un dispositif qui, en plus, est aussi expérimenté dans notre académie, Jeff, hein, à Lyon, même assez proche de chez nous, avec une redéfinition en fait, des espaces de travail.
L'espace.
Voilà, là, ils ont un dispositif qui s'appelle « Bouge ta classe », avec un petit arrobas sur le classe, et qui, en fait, fournit du mobilier de classe un peu différent pour repenser le placement des élèves selon des îlots, enfin voilà, des choses intéressantes parce que justement, pas toujours les mêmes, facilement aménageables et facilement modulables. Et à cette, d'ailleurs, il faudra qu'on invite notre collègue, Monsieur Grange, Jeff, une prochaine
fois. Oui, c'est vrai.
De tout ça. J'aime avec tout l'idée étant de repenser les lieux, mobiliser les lieux pour enseigner et apprendre. Bon, tout ça, c'est intéressant, c'est très intéressant, même, en tout cas, on s'aperçoit que pour une si petite commune et en tout cas une communauté de communes qui n'a pas l'air non plus d'être immense, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel et beaucoup, beaucoup de choses. Et ce qui est en fait super intéressant à la fin, parce que bon, on nous dit que l'exécutif de la communauté de communes souhaite étendre encore plus le dispositif, bien évidemment, travailler avec les enseignants, mais aussi avec des personnes extérieures. Et il y a un petit à noter quand même qui, moi, me paraît vraiment intéressant à la fin, c'est que Élancourt, c'est le nom de la ville donc, a créé en 2012 un espace de formation municipal où les enseignants peuvent se former aux usages du numérique. Et que depuis 2014, il accueille environ 4000 stagiaires par an, soit 37 000 heures de formation. Donc en fait, c'est énorme. C'est-à-dire que la réussite de tout ce dispositif, elle vient certainement uniquement grâce à ce tout petit encadré à la fin de l'article qu'on n'est pas très développé et qui parle de la formation, puisqu'encore une fois, on en revient toujours au même problème. C'est-à-dire que finalement, l'article ne dit pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a beaucoup de matériel qui a été développé. J'aimerais vraiment reconnaître les aboutissants et l'évaluation de la performance de ces outils, de comment les collègues s'en sont appropriés. Et finalement, c'est quand on voit ça qu'à la fin, on se dit « bah ouais, d'accord ». C'est-à-dire que le maire est lui-même enceinte chez IBM et croit dans le truc. Et j'imagine que c'est aussi grâce à son impulsion qu'il a créé cet espace de formation municipal. Je veux dire, enfin moi, ma connaissance, je n'avais jamais vu ça. Voilà, en tout cas, pas quelque chose fait par une mairie.
Ouais, à ce niveau-là, surtout. Ouais.
À ce niveau-là, et surtout pas un peu tout seul. En général, les collectivités, bien sûr, s'investissent, mais c'est toujours en lien étroit avec l'éducation nationale. Voilà, donc écoutez, une petite histoire sur cette commune. Voilà, ça fait un peu Jean-Pierre Pernaut, j'en conviens bien, mais je trouvais...
Maintenant que j'y pense, moi, mes cours d'informatique, mes premiers cours informatiques sur des MO5, quand j'étais en CM1, je crois, c'était dans une structure municipale. L'école, notre prof nous y emmenait, mais le centre informatique, c'était un truc municipal, quoi.
Il y a quelque chose qui fait quand même assez sens dans tout ça, parce que les collectivités municipales, elles ont pour dans leur attribution, enfin elles ont dans leur compétence, une de leurs compétences, c'est de pourvoir aux besoins des établissements scolaires, donc c'est bien, suivant les degrés en fonction, voilà. Et souvent, ça s'arrête là. Et c'est en fait, nous, on le voit bien sur le terrain, c'est un peu le gros problème, parce que des fois, ils essayent de faire des choses, mais bon, c'est pas leur métier non plus. Donc, le relais est pris par des gens de la DAN ou par les voilà. Et là, je trouve que c'est pas mal parce que la boucle est bouclée quand même. C'est-à-dire, on fournit le matos, mais on propose aussi en plus un pôle de formation. Alors, on sait pas si c'est sur les mercredis après-midi pour les enseignants du premier degré. On sait pas si c'est pendant la période scolaire. On sait pas tout ça. En tout cas, l'article dit quand même que 4000 personnes en ont profité sur depuis 4 ans. Je ne suis même pas certain qu'on ait... Enfin, si, quand même, je dis des bêtises. Mais en tout cas, voilà, c'est pas mal pour un pôle de formation municipale. Quoi. Voilà.
Mmh. Ouais. Du coup, c'est un peu plus, c'est un peu plus décentralisé. Et ça risque d'être moins homogène sur tout le territoire. Quoi.
Je suis, voilà, c'est le problème de la décentralisation des compétences, de toute façon, qu'on voit pas uniquement de ce point de vue-là. Après, si ça peut être efficace, parce qu'on voit bien aussi que les formations, plus elles sont centralisées, plus c'est difficile de toucher un maximum de personnes aussi. Parce que voilà, tout le monde, enfin, on voit bien sur les catalogues de formation proposés, tout le monde n'y a pas accès tout le temps parce qu'il y a des priorités, parce que voilà, les formateurs ne peuvent pas tout faire non plus. On est bien placé pour le savoir, Jeff. On peut pas sinon on pourrait passer notre temps à faire que de la formation aussi. Mmh. Voilà, c'est le risque. Donc je sais pas trop quoi penser de tout ça, surtout qu'on sait rien quand même encore dans l'article. On sait pas vraiment la pertinence et j'imagine qu'il y aurait des voix qui se lèveraient contre ça aussi en disant oui mais attendez c'est du flan parce que si parce que ça. Mais en tout cas voilà, ça date d'hier donc c'est plutôt récent.
Ok.
Merci.
Très bien.
Très bien.
Mais tu as raison sur sur la partie classe, j'avais pas pensé à tous les projets Class Lab qui se font à droite à gauche, ça pourrait être intéressant de faire une émission aussi. Voilà.
Tout à fait, tout à fait.
On enchaîne, oui, dis-moi.
Qu'est-ce qui fait ce projet en SVT, dis-moi.
Ah, c'est moi, oui. Donc c'est ce que l'on fait en ce moment.
Non,
il est énorme, il est énorme.
On pourrait passer des heures là-dessus sur le truc municipal et tout. Je pourrais passer des heures. Mais le compteur tourne, les enfants. Alors il faut y aller. Allez.
T'as pas trop réagi en plus, toi. C'est...
Non, j'ai pas trop réagi parce que je sais vraiment, sincèrement. Alors pour parler sincèrement, je sais pas comment réagir. Autant je trouve ça quelque part formidable qu'on associe de la formation avec de l'équipement, ce qui devrait être une règle absolue. Parce que nous, généralement, on a de l'équipement et la formation. Vas-y, fais-la toi-même. C'est ce qui conduit d'ailleurs généralement à avoir des équipements qui prennent la poussière dans des écoles. Et là, je parle en termes d'expérience personnelle. Voilà. Par contre, je ne peux pas m'empêcher d'être dérangé que ce soit ça soit fait par la mairie quand même. Il y a toujours un côté, je ne sais pas, quoi, c'est quand même pas à la mairie de former les enseignants. Quoi. Ou alors, carrément, on est des enseignants municipaux dans le primaire et on revient à des choses il y a très très longtemps.
Je suis assez d'accord avec ça, effectivement. Hein, en fait, il faudrait voir qui fait la formation. Est-ce que c'est les moyens fournis par la mairie et peut-être des profs qui font ça en plus, j'en sais rien. C'est vrai que ça pose question quoi qu'il arrive, ça je suis bien d'accord.
Surtout que je peux te répondre hein, sur quand est-ce que c'est fait, c'est forcément fait hors temps scolaire parce que la mairie n'a pas accès à notre corpus d'heures.
Ouais, bien sûr, voilà. Bien sûr.
Mais bon. Alors, qu'est-ce que vous faites en ce moment ?
Vas-y, Jeff. Alors, en ce moment, allez. En ce moment, je ne sais pas ce qui arrive, en tout cas, dans notre académie. Je me suis beaucoup intéressé à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle, où j'avais proposé une formation déjà l'an passé. Et je ne sais pas trop ce qui se passe dans notre académie. J'ai l'impression que je suis monsieur réalité augmentée et réalité virtuelle à l'académie. On me propose plein de projets. Voilà. Le premier, c'est un projet avec des enseignants d'SVT qui veulent, en partenariat avec l'inspecteur d'SVT de l'académie et un groupe d'enseignants de lycée et de collège, qui veulent développer en tout cas des séquences avec leurs élèves en utilisant la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Donc moi, je suis le regard un petit peu extérieur à la SVT, puisque c'est pas du tout mon domaine, hein. Mais ils avaient besoin d'un regard extérieur, un besoin un peu plus qu'est-ce qu'on peut faire avec la réalité augmentée et la réalité virtuelle. C'est un projet en tout cas qui va partir sur plus d'un an, on est parti. Donc je pense que ce sera un petit fil rouge quand j'en saurai un peu plus sur ce projet-là, etc., comme où ça en est. On est vraiment sur les balbutiements de ce projet. On a eu une première réunion en tout cas dessus. Voilà, c'est des projets moi qui me motivent à fond. Et puis boule de neige, un nouveau projet sur la réalité virtuelle, cette fois-ci uniquement. Merde, j'ai perdu le nom. Institut de formation pour adultes. Rappelez-moi le nom.
Le Greta.
Le Greta, voilà. Pareil, merci. qui est venu aussi me chercher pour un projet aussi là d'enseignement professionnel utilisant la réalité virtuelle. Donc là j'y vais dans 15 jours en tout cas pour en savoir un peu plus. Donc voilà, des projets moi qui me motivent, qui me boostent un bon coup là. Parce que cette année, pour l'instant, j'avais pas beaucoup de projets qui me boostaient. Donc là, voilà. En tout cas, c'est ce que je fais en ce moment. Hein, c'est du live. Hein, c'est passé mardi. Hein, ces premiers rendez-vous de projet. Donc vous voyez, c'est tout chaud. C'est tout frais.
Eh bien, voilà. C'est un bien beau projet. Merci.
Voilà.
L'accent qui sort de nulle part.
Et je vous en dirai un peu plus tard.
Très bien. Bien sûr. Bah, toi, on te sollicite, dis donc. Hein, c'est la classe, hein.
T'as vu ça, c'est la classe. Hein. Voilà.
Franchement. Bon, Seb, à toi.
Moi, je vais faire une espèce de suite avec le début de l'émission. Donc, si vous l'avez loupé, revenez quelques minutes en arrière. Voilà. Alors, du coup, j'ai pris mes cartes programmables. J'ai pris mes robots Edison dont je loue la nouvelle programmation. J'ai pris mon Scratch habituel. J'ai aussi en stock des cartes Meki, qu'un généreux compagnon m'a prêté pour l'instant. Et je me suis dit, je vais faire un gros segment programmation avec des objets à programmer. Et je me suis lancé dans une série d'ateliers de programmation avec programmation de robots, puisque les robots Edison maintenant ont un langage de programmation en bloc, donc voilà, impeccable. Programmation de la carte, donc. Pour l'instant, on est vraiment au balbutiement et à comment ça fonctionne. Programmation de Scratch pour faire du son avec le clavier. Et ensuite, on verra pour le déporter avec le Meki. Et programmation de dessins divers et variés avec Scratch, mais c'est plus en relation avec la géométrie. Donc, un gros, gros segment programmation, une bonne grosse après-midi d'atelier. Alors, c'est encore plus frais que Jeff, parce que moi, ça date d'aujourd'hui, de cet après-midi. Ah. Voilà. Donc là, première séance avec tous les trucs qui n'ont pas fonctionné forcément, comme d'habitude. Mais voilà quoi, c'était avec des robots qui clignotaient dans la classe, des cartes qui flashaient. Enfin, c'est sympa. Je suis pas sûr qu'arriver dans les familles ce soir, ça y ressemblait à de l'enseignement, mais je m'en fous. Je me suis bien amusé en tout cas.
Eh ben, c'est bien.
Pardon. J'aime ce genre de cours. Ouais. Quand ça boue dans la classe.
Ouais, moi j'aime bien aussi.
Écoutez, on arrive à la fin de cette émission avec notre récréation habituelle.
Guillaume, il fait rien en ce moment, t'as vu, ça se voit. Hein.
Et ben en fait, je fais plein de trucs, mais rien dont je ne puisse parler, c'est top secret, ça viendra bien.
Encore des trucs qui se finissent en cam, bravo.
Je n'ai pas de répartie tout de suite là, c'est pénible. Allez, on va parler d'autre chose. Allez, c'est
voilà. Parle série, vas-y. Allez
j'ai hâte d'écouter Seb sur son miroir magique. Ça m'intéresse. Seb, raconte.
J'ai vu ça. Ouais, je l'avais vu ça. Ouais.
Vas-y, ouais. Vas-y. Bah, en fait, c'est effectivement comment créer un miroir magique. Donc, c'est sur le site Framboise 314. Donc, c'est en fait un projet à base de Raspberry Pi, Raspberry Pi, qui en fait vous invite à créer une espèce de miroir magique. Alors c'est pas un miroir magique, mais c'est un miroir connecté. Donc le principe est assez simple. Il suffit de prendre un écran, de le démonter un peu, de lui mettre un miroir sans teint dessus. Donc c'est un miroir qui reflète, mais de l'autre côté on peut voir ce qui se passe. Ce qui fait que ce qui va être affiché sur l'écran, vous allez le voir sur votre miroir tout en vous rasant. Et en branchant un Raspberry dessus, on peut le paramétrer pour qu'il puisse mettre la météo du jour. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut vous mettre votre agenda, tout un tas d'infos qui peuvent vous sembler intéressantes. Et puis, il y a un petit malin qui a en plus rajouté des enceintes. Ça, c'est pas mal si vous voulez écouter du Spotify, écouter la radio. Et encore plus malin, il y a un assistant vocal qui est dispo. Donc là, il suffit de mettre un petit micro en plus. Et si vous voulez pas utiliser Google Assistant, parce que c'est possible. C'est possible de l'installer sur un Raspberry Pi. J'ai vérifié un petit peu. Et il y a un autre assistant plus open source qui s'appelle Calliope, je crois. Et Donc, du coup, vous pouvez passer quelques commandes vocales comme ça, assez simples, pour envoyer un message, lancer la radio, demander l'affichage de son agenda, créer un événement de son agenda, des choses comme ça. Et je trouve ça assez sympa d'avoir ça dans la salle de bain. Donc, moi, j'ai bien envie de me lancer, de construire
un miroir magique
et demander qui est le plus beau, tu vois.
Mais ouais. tu vas te lancer, c'est vrai? Ah, ça fait plaisir. Bon,
bah,
tu
ouais,
peux nous faire
ouais,
voir
ouais.
ça.
Alors, c'est pas forcément. Il faut faire un choix. C'est-à-dire que moi, je compte me lancer et me planter parce que des miroirs sans teint, il y en a à tous les prix. Donc, ça peut être assez cher si vous voulez un beau résultat.
Ah oui, c'est... d'accord.
Ouais. L'écran, il vaut mieux essayer de trouver un écran de récup parce que vous vous en foutez un peu de la résolution. Et le cadre, bon, bah, il faut essayer de.
Les bois.
De...
C'est le genre de projet. Le problème, c'est que voilà, si t'as pas des matériaux un peu sympas, ça va vite faire le Jackie Touch, quoi. Tu vois, le truc un peu dans un coin, un truc un peu pourri, là.
Puis moi, j'ai trois femmes à la maison qui vont me dire « Non, mais tu me dégages ce miroir dégueulasse.
» Mais grave. Ah, ouais, mais avec du beau bois autour et tout, etc., ça peut être sympa, hein.
La vidéo que j'ai vue, franchement, le mec, il a deux speakers. Là, ça marche bien, son truc, mais ça fait deux grosses enceintes.
C'est pas très beau, ouais. Je regardais sur le site, c'est pas très, très beau. Mais le petit dessin 3D là-haut, si tu fais avec d'un beau bois comme ça, c'est magnifique.
Je suis étonné d'ailleurs que pour tout ce qui concerne la domotique et compagnie, il n'y ait pas déjà eu ce genre de choses en fait, un peu sympa.
J'ai déjà vu ça.
Pas bien vu quand même, qui s'incruste bien dans la maison, dans du mobilier.
Samsung avait fait ça, ouais. Avait fait un miroir comme ça.
J'ai vu des miroirs Bluetooth.
Le Raspberry, tu le planques derrière, c'est ça? Il faut l'alimentation, il faut.
Démonte ton écran.
Tout planquer, quoi.
Tu démontes ton écran et tu le claques sur l'écran, en fait. Donc, tu enlèves le boîtier de l'écran. Tu vois, le boîtier en plastique.
Oui, oui.
Tout ça, tu démontes. Et après, l'alimentation, c'est encore un autre problème. Ouais, parce que si ça te monopolise une prise à côté du miroir, c'est un peu casse-pied.
Ouais, c'est l'alimentation. C'est ça qui est plus casse-pied.
Tu veux brancher le sèche-cheveux, tu enlèves le truc, tu as l'air con, tu n'as plus de miroir. Ah, mais c'est pas possible.
Tu t'énerves. Non, mais j'adore ce petit jeu, ces petits projets maker comme ça. Ouais.
Ah ouais, non, c'est sympa. Eh bien, très bien. Allez, j'enchaîne. Eh bien, moi, aujourd'hui, pour parler d'autres choses, je vais vous parler d'une série qui est assez vieille maintenant, enfin, qui en sont à la cinquième saison. Moi, j'ai attaqué il n'y a pas très, très longtemps. Ça faisait longtemps qu'on m'en parlait, mais je n'avais pas encore eu le temps de m'y pencher dessus. Ça s'appelle Boardwalk Empire et ça traite, en fait, c'est toute une histoire qui se passe pendant l'époque de la Prohibition, donc l'entre-deux-guerres, exactement dans les années 20, en fait, hein, début des années 20, puisque c'est la période pendant laquelle les États-Unis sont entrés en Prohibition. Bon, ça me fait penser, en fait, on m'avait dit, tiens, si t'as adoré Peaky Blinders, tu peux regarder Boardwalk Empire, parce que, bon, en fait, on m'a dit ça parce que c'est un petit peu à la même période, mais
ouais,
c'est
à peu près tout.
Ah, ça n'a rien à voir.
Moi, ça n'a rien à voir du tout quand on m'a dit ça au début. Voilà, c'est juste parce que c'est un peu la même période, mais déjà, on n'est pas du tout dans les mêmes pays, c'est pas du tout la même culture, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'ils ont la même langue comme certains blaireaux disent tout le temps. Ouais, c'est la même chose. Non, à côté, il y a les Britanniques.
C'est aussi violent, non?
Non, enfin, moi, je trouve que c'est un petit peu moins violent que Peaky Blinders. C'est peut-être aussi parce que c'est un peu plus vieux. En tout cas, il y a une ambiance qui est super bien, quoi, dans Boardwalk Empire. Enfin, encore une fois, je n'ai vu que la première saison. Je trouve que c'est bien joué, l'intrigue est plutôt intéressante et les personnages sont assez épais pour me tenir en haleine, en tout cas pour le moment. Voilà, ça vaut le coup. Je trouve que les décors, tout ça, c'est vraiment bien foutu. On s'y croirait quand même. Ça se passe à Atlantic City, donc qui est quand même, pour ceux qui ne sauraient pas encore, la ville, le Las Vegas de la côte est, hein, on a tendance à dire. Enfin, même. Et c'est plutôt pas mal. Enfin, si vous les avez vus, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais je trouve que c'est
pas vu, non.
Voilà.
Non.
Ah, moi, j'ai adoré aussi, j'ai tout regardé et ça se finit. C'est-à-dire qu'à la fin de la saison 5, c'est fini.
Ouais.
Ça devient un peu plus violent après.
D'accord.
Quand même. Et, ouais, Atlantic City, ouais, c'est sympa. Gastronomiquement, c'est une expérience aussi. C'est là où j'avais mangé des Oreos frits sur un bâton. Parce qu'à peu près tout est frit sur un bâton, et y compris les Oreos, tu vois.
Mais... Les Oreos frits, putain.
Ouais, ça se fait bien, ça. Moi, j'ai bouffé ça.
Ouais.
C'était vers Baltimore, mais c'est pareil, c'était quand même, ça vaut quand même des points. En tout cas, ça vaut le coup. C'est produit par des grands, grands, grands noms du cinéma. Il y a Scorsese dedans, bien sûr.
Gros casting.
Qui ça, pardon?
Gros casting hein, avec Steve Buscemi.
Steve Buscemi, ouais.
Qui est quand même. Scorsese, il y avait qui d'autre aussi, j'avais dit, qui était très très connu. Bon, Buscemi, on en a parlé. Bon, je sais plus. Bon, en tout cas, ça vaut le coup. C'est visible. Je sais plus qui c'est qui a ça en France, peut-être au CS. Bon, sinon, ça se trouve très facilement par-ci, par-là. Voilà.
Par-ci, par-là.
J'adore le site par-ci, par-là.
.com.
Voilà, j'ai oublié, dedans il y a Michael Pitt. Et pour ceux qui sont comme moi, nés dans les années 80, au début des années 80, et qui ont été ados à la période de Dawson's Creek, avec Cathy Holmes et puis je sais plus quels acteurs, série ado perturbée, il y avait dedans ce mec-là aux grosses lèvres là, qui m'avait marqué quand j'étais ado et qui joue vachement bien là, dans cette série. Voilà.
Je sais même pas de quoi tu parles, mais t'es jeune, c'est pour ça que je vois
pas. T'as jamais regardé Dawson, Jeff? C'est pas possible.
Dawson? Non, mais c'est pas mal, je suis trop vieux, moi. Non, je suis trop vieux. Je suis trop vieux, Dawson, je ne regardais pas ça, moi.
Ouais, t'étais déjà devant les cams.
T'es jeune, toi.
Ouais, très bien.
C'est ça, tout à fait.
Un peu plus jeune, très bien. Allez-y.
Ben toi, allez, l'ancêtre, qu'est-ce que tu nous as
proposé? L'ancêtre. C'est moi, moi, je suis encore une série. Donc, alors moi, c'est une série qui est visible sur Netflix. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'aller par-ci, par-là. qui s'appelle Maniac. C'est une mini-série. Je pense qu'il y a une saison. Je pense qu'il n'y en aura jamais deux, à mon avis. Je peux me tromper. C'est un peu une série what the fuck, on va dire. Hein.
Attends. Je te coupe parce qu'il y a un truc qui vaut vachement le coup. Je clique sur le lien, je vous lis le synopsis. Annie Lansbury, jeune femme dépressive, et Owen Milgrim, en proie à des troubles paranoïaques et schizophrènes, participe à un mystérieux essai clinique mené par des docteurs et supervisé par un super ordinateur.
Voilà. Donc,
ça vaut le coup, les gars.
Donc, le pitch, tu l'as fait, c'est hallucinant. C'est vraiment, comme je disais, what the fuck. C'est dans un futur, ça se passe dans un futur, mais ils ont que des vieux ordinateurs avec des écrans cathodiques. Ils ont un genre de Google Assistant, donc le super ordinateur qui fait une pièce entière et qui parle et qui a des sentiments, etc. Et ils sont dans des essais cliniques. Donc, ouais, elle est dépressive et l'autre, il est un peu schizophrène. Et ils font des essais avec trois pilules, la A, la B et la C, et qui va permettre de les guérir. Donc, voilà. Donc, sur, je crois, neuf épisodes, vous allez voir l'évolution, en tout cas, de ça. Ça part dans des délires les plus totales, en tout cas quand ils en sont dans les essais cliniques ou quand ils prennent une pilule où ils vont partir dans des mondes parallèles, etc. On ne sait jamais s'ils sont encore en train de rêver ou si c'est encore ou c'est la vérité. Je n'ai jamais vu une série comme ça. Voilà. J'ai jamais vu une série traitée comme ça. On sait pas, voilà, l'époque est vraiment délirant, quoi. L'époque est complètement délirant. C'est un futur, hein. On sait que c'est dans le futur, mais ils ont que des vieux appareils, que des vieilles bagnoles, que des trucs hallucinants. C'est une série what the fuck complètement. Voilà, comme acteur, il y a Emma Stone. Je sais pas si vous la connaissez, Emma Stone, en tout cas, qui est assez connue. Voilà.
Juste l'actrice la mieux payée.
C'est ça.
Bien le truc, peut-être vous la connaissez. quand même.
Voilà, l'acteur principal, Jonah Hill. Alors, il est un peu moins connu, mais si vous regardez. Je sais plus, j'avais regardé le film, dans quel film il avait été, je sais plus. Le Loup de Wall Street, voilà. Voilà, donc, franchement, moi, je vous la conseille. C'est vrai que le pitch comme ça, quand tu regardes sur Wikipédia, ça donne pas envie. Mais je me suis laissé, alors c'est, les critiques, c'est soit on déteste, soit on adore. Il n'y a pas de juste milieu. Voilà.
Pour moi, c'est l'une des toutes meilleures séries SF, que j'ai vues. Elle est
tu l'as vue?
Elle est intelligente, elle est brillante. C'est super bien réalisé, c'est bourré de références parce qu'il y a des références au Seigneur des Anneaux, à plein de choses.
Ah oui, Seigneur des Anneaux, c'était énorme.
Parce que l'intelligence artificielle, elle est dépressive aussi.
Oui, elle est dépressive.
Qui fait foirer l'expérience. et je trouve que c'est une série fantastique, quoi. Vraiment fantastique.
Ah, les deux médecins sont énormes. Voilà, donc.
Tout est énorme, les clips pour faire la promo de leur labo et tout. C'est, effectivement, ça paraît barré, mais l'histoire se tient, vraiment.
Ouais, l'histoire se tient. J'avais peur. Quand tu regardes le premier, tu te dis mais où ils vont t'amener ? Et en fait, t'es vraiment bercé dedans, etc. Alors j'ai vu que c'était inspiré d'une série qui était norvégienne au début. Donc voilà.
Ça date de quand ça ?
C'est tout récent, 2018. Ouais.
Ok.
Bon, c'est brillant, c'est... vraiment.
Moi j'adorais. Hein.
Ouais. Comme Carbone, tu vois.
Altered Carbon.
Ah, Altered Carbone, ouais. Rien à voir.
C'est pas la même chose.
Ouais. Et t'es d'accord avec moi, il n'y aura pas de saison 2. Moi, c'est ce que
ah non, c'est une mini-série. Voilà.
C'est ça.
C'est pas plus mal. Si vous avez aimé les séries qui sont bonnes, moi j'ai beaucoup apprécié sur Netflix, c'est Hill Mansion, la série d'épouvante. Une série qui est une série qui fait peur, qui est très bien écrite, qui joue pas du tout sur le gore. Et même une fois que vous l'avez vu, moi j'ai été faire pas mal de vidéos sur YouTube pour voir la passion du détail du réalisateur qui a planqué des fantômes. Mais parfois c'est simplement pour le plaisir de les mettre. Ça se limite à une main paumée dans le cadre. Et il y a des moments où il y a des fantômes qui sont super visibles et on ne les voit pas. C'est très bien écrit.
Et ça fait peur, une série. Peur ou
ça fait ouais, t'as des moments de sursaut. Il y en a pas énormément dans la série.
Je suis pas client moi de.
Non mais alors sincèrement, je suis pas client.
Chez l'exorciste c'est où
Ah non, ça a rien à voir avec l'exorciste.
Non, les sursauts. Tu m'as parlé de sursauts, c'est vraiment.
Non, les sursauts, il y en a un. Allez, il y en a pas énormément. C'est vraiment la qualité de l'écriture et la manière dont les gens vont avoir à aborder cette maison qui. Il cache pas mal de choses. J'étais là en me disant, ouais, bof, peut-être. Et en fait, c'est les critiques qui m'ont dit, ouais, mais elle est super bien écrite. D'habitude, une série d'horreur, par exemple, sur Netflix, vous avez American Horror Story.
Ouais.
Ouais, c'est dans la surenchère permanente au fur et à mesure des épisodes. Voilà, ça peut trouver son public. Moi, ça me blase au bout du troisième épisode où il y a trois têtes volent, bof. Mais par contre, Hill Mansion, justement, il n'y a pas de gore, il n'y a pas de truc. Ça fait peur, il y a des fantômes, il y a des gamins qui se font terroriser et tout ça, mais c'est plutôt par la qualité, on se dit, punaise, mais alors lui, ah oui, ah oui. Et puis, il y a vraiment un truc à comprendre derrière. Mais bon, ce n'était pas vraiment de ça dont j'avais parlé.
Oui.
On parle rapidement. Vu l'actualité cinématographique, je me suis dit, tiens, on va se refaire une plongée en adolescence et en ce moment, je me réécoute du Queen.
Est-ce que tu es allé voir le film ?
Non, j'ai pas été voir le film.
Ah là là, je veux y aller moi aussi. Vous êtes allé voir des deux, non ? Des deux autres, non ?
Non.
Vu, mais pas encore. Non.
Tu vois, je me suis fait des tas de documentaires qui traînent sur YouTube. Et voilà, je découvre encore des trucs pas mal.
Alors moi, je suis entouré.
Je
passe ma vie entouré de musiciens et de. Voilà. Et bien sûr, c'était les discussions dans le camion pour aller au concert de ce week-end. Et pour l'instant, tous ceux qui l'ont vu, et vraiment des gros gros fans de Queen, sont plutôt dithyrambiques en disant que vraiment que la prestation était assez bluffante de Mr. Robot là. Enfin, à chaque fois je mange son nom là.
Rami Malek.
J'allais dire Rémi Malek, mais c'est Rami Malek qu'il était assez crédible. Après, il y a quelques largeurs, en tout cas, des prises de risque par rapport à l'histoire, mais ça reste quand même de toute façon un film. Mais c'est léger, c'est sur des conneries de geeks de Queen, du style non, ils n'ont pas annoncé la séparation Live Aid, ils l'ont annoncé 3 semaines avant ou je ne sais quoi, enfin vous voyez quoi, mais pas qu'ils changent quoi que ce soit. Et franchement, pour l'instant, j'ai que des bons retours sur le. Voilà. Très bien réalisé, des super belles prises de vue live. On se demande si c'est le Rami qui chante ou pas, parce que, en tout cas, si c'est lui, il a une super voix. Voilà.
Ok, j'ai envie d'être convaincu d'aller le voir.
C'est Queen. Qui n'aime pas Queen ?
J'ai jamais été un grand fan de Queen. Hein,
c'est pas possible.
Non, j'assure, je connais très très mal et
c'est pour ça.
Je connais très mal. Ouais. Je connais les titres qu'on connaît à la radio, quoi.
Ça devait y aller. En train de faire du rugby à la fin, complètement bleu, en train de gueuler. We are the champions. Là, il y a du monde. Hein. Ça m'énerve, ça. Allez, qu'est-ce que je te dise ? Mais voilà. Alors que tellement, tellement de beau. Bref.
Non, mais je suis honnête. Allez, on finit là-dessus ?
On finit là-dessus.
Allez, en tout cas, si vous voulez nous retrouver, c'est toujours sur eTeachers.fr. Tous les 15 jours, un nouvel épisode. Et vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Twitter, eTeachers.fr, sur Facebook, eTeachers. Si vous voulez nous aider, vous pouvez aller sur tipeee.com/eTeachers et pouvez en tout cas voilà chercher. Je suis en train de lire autre chose à côté. Un petit SMS là, qui vient d'arriver, excusez-moi. Et voilà, vous pouvez nous donner en tout cas la somme que vous voulez par mois. Ça nous aide en tout cas pour financièrement, voilà. Et j'ai fait le tour. Oui, je parle plus de l'appli Android parce que je me suis rendu compte que l'appli Android a été éjectée par Google. Je sais pas pourquoi. Elle n'existe plus. On ne peut plus la trouver. J'ai reçu un petit mail dernièrement en me disant elle n'est plus sur le store. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Pourtant, je n'ai pas piqué d'image, je n'ai rien piqué. Je ne pense pas. Voilà, donc, et si on va vous retrouver, messieurs.
Seb.
C'est Gatab, Seb, allez.
Ouais, bah, sur ma cam. Allez. Sur Twitter, The True Seb, et sur Agito, agi.to.
Enfin, je coupe ça quand même.
Allez écouter Agito, abonnez-vous au podcast.
Tout à fait.
Seb, à toi.
Moi, ce sera sur Twitter avec @stuteur, S-T-U-T-E-U-R.
Et Guillaume, vas-y.
Non, bon, bref. Ah, mais c'était pas ce que j'allais dire comme blague, arrête de dire.
Ah, mais tu
pensais à quoi? Moi, je pensais à un
tuteur. Ouais, vas-y, vas-y. Enchaîne.
Tomate, tu sais.
Tu vas en découper des choses, je te dis.
Ah, allez, moi, c'est Willow.
Habituellement, je coupe rien. Hein.
Avec un underscore entre Willow et Teach.
Allez, moi, c'est Jeff8342. Oui, on a eu qu'une émission où j'ai coupé. Hein. Vous la connaissez. Hein.
Voilà. Bon, allez, très bien.
C'est allez, on se. Allez. À ciao, à
salut,
bientôt.
À ciao, à bientôt.
Bonsoir.